Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, la détente entre la Turquie et l'Union européenne, symbolisée par la visite des dirigeants de l'UE hier à Ankara. Après une année 2020 difficile, on veut jouer la carte de l'apaisement, mais sous conditions, nous le verrons. L'actualité internationale, c'est aussi l'Inde et l'État du Bengale où se déroulent en ce moment des élections cruciales. Le parti fondamentaliste hindou lorgne depuis longtemps sur ce bastion de la gauche et la campagne violente reflète les enjeux de cet affrontement. Le ballet des dirigeants européens continue en Libye à la faveur d'une éclaircie politique. Hier, ce sont les premiers ministres italiens et grecs qui étaient à Tripoli pour parler commerce, énergie et migration. Et puis le nucléaire, de nouveau au centre des discussions à Vienne où sont réunis les signataires de l'accord de 2015. Objectif, le sauver et le remettre sur les rails. Nous tenterons de vous expliquer les enjeux de cette réunion ainsi que les options qui se présentent aux principaux acteurs de cet accord, à savoir l'Iran et les États-Unis.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Déplacement scruté donc à Ankara des autorités européennes. Ursula von der Leyen et Charles Michel ont rencontré le président Recep Tayyip Erdogan. Une visite qui visait à encadrer la détente amorcée entre la Turquie et l'UE après une année 2020 pour le moins difficile. Les dirigeants de l'Union ont plaidé pour une approche très progressive, conditionnée à l'attitude des autorités turques dans les mois à venir. À Istanbul, on retrouve Anand Lauer.
Nous ne sommes qu'au début du chemin, c'est ce qu'a dit et répété Ursula von der Leyen à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État turc. La présidente de la Commission européenne a réaffirmé la volonté de l'UE de renouer le dialogue avec la Turquie, tout en usant de beaucoup de prudence et de conditionnel. Nous tendons la main, c'est maintenant à la Turquie de saisir cette opportunité, a renchéri le président du Conseil, Charles Michel. Les deux dirigeants de l'UE étaient venus exposer Recep Tayyip Erdogan le cadre de cet éventuel réchauffement et les bénéfices que la Turquie pourrait en tirer. Des bénéfices essentiellement économiques, qui passerait notamment par une modernisation de l'union douanière entre la Turquie et l'UE. L'Europe propose aussi de reprendre le dialogue à haut niveau, suspendu en 2019 sur certains sujets, comme l'environnement ou la santé, et de poursuivre son soutien financier aux 4 millions de réfugiés installés en Turquie. Mais Ursula von der Leyen et Charles Michel ont été clairs, l'Europe n'avancera que si la Turquie avance et ne ravive pas les tensions en Méditerranée orientale. Les dirigeants de l'UE ont aussi insisté sur le respect des droits de l'homme, qualifié de priorité absolue. Le Conseil européen de juin leur permettra de faire le point et de juger des progrès, donc de la sincérité du président turc. À Istanbul, Anand Lauer pour Radio Vatican.
L'actualité, c'est aussi l'Éthiopie où depuis vendredi, deux régions du nord-est, Afar et Somalie, connaissent une flambée de violence. Selon des sources locales, des dizaines de personnes ont déjà été tuées en quelques heures sans que les autorités fédérales ne réagissent. Ces deux provinces se déchirent depuis des années autour d'un différend territorial. Denis Sassou Nguesso est bien le président du Congo-Brazzaville. Son élection à un quatrième mandat a été confirmée hier par la Cour constitutionnelle de son pays, qui a jugé irrecevable les recours déposés par ses opposants. Afrique toujours, au Burundi plus précisément, au moins 200 personnes ont été victimes de tortures ou d'exécutions extrajudiciaires en 2020. C'est un rapport du département d'État américain qui l'affirme. Bujumbura a toujours récusé de telles études, estimant qu'elles ne visent qu'à ternir l'image du pays. Les explications avec Aubin Niyonkuru.
Selon ce rapport qui retrace la situation des droits de l'homme au Burundi en 2020, les victimes de ces violations sont les membres de l'opposition pour la plupart. Ils sont soit arrêtés ou kidnappés et finissent dans les prisons ou jetés dans des places publiques. Ce rapport fait référence aux enquêtes de plusieurs organisations locales, dont certaines ont été interdites d'opérer dans le pays depuis la crise de 2015. Ce document parle de 200 cas de tuerie jusqu'au début du mois d'octobre en 2020. Ces informations sont confirmées par la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi selon le même rapport. Bujumbura a toujours rejeté en bloc le contenu de ces rapports. Leurs rédacteurs sont déconnectés de la réalité, rétorque-t-il, tout en les invitant à venir au pays pour faire le constat. Depuis Bujumbura, Aubin Niyonkuru, Radio Vatican.
Poussée de fièvre hier au Bénin où des incidents ont éclaté dans plusieurs villes du centre et du nord, des groupes de manifestants, jeunes pour la plupart, ont bloqué des routes et saccagé des biens appartenant à des députés issus de la majorité au pouvoir. La tension monte à quelques jours de l'élection présidentielle, une élection où aucun parti de l'opposition ne sera représenté. L'actuel président Patrice Talon brigue, lui, un second mandat. Campagne électorale électrique et violente aussi dans l'État indien du Bengale occidental. Au moins 2 personnes ont été tuées. Le scrutin oppose la droite fondamentaliste hindoue du Premier ministre Modi à la chef du gouvernement sortant, Mamata Banerjee. Si les fondamentalistes hindous espèrent remporter ce fief de la gauche, la campagne électorale en dit long sur le délitement de la démocratie en Inde. À New Delhi, Emmanuel Derville.
Le Bengale occidental est le théâtre de violence à chaque élection. Mais les incidents de ces dernières semaines illustrent le climat politique de plus en plus délétère qui ronge la démocratie indienne. Ni le parti de Mamata Banerjee, ni le BJP du Premier ministre Narendra Modi ne reconnaît à l'autre la légitimité de participer à la vie politique et de faire campagne. Mamata Banerjee a qualifié ses adversaires de droite de « casseurs » et son parti a comparé Narendra Modi à Joseph Goebbels. Le ministre de l'Intérieur et poids lourd du BJP, Amit Shah, a accusé Mamata Banerjee de se maintenir au pouvoir par l'extorsion et la dictature. Les autorités fédérales, aux mains du BJP, ont aussi lancé des enquêtes pour fraude contre l'entourage de Mamata Banerjee. Cette lutte en dit long sur l'enjeu des législatives au Bengale occidental. Narendra Modi a besoin d'une victoire pour accentuer la domination du BJP sur la vie politique et concrétiser son rêve de voir la droite hindoue gouverner la totalité des régions. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
En Birmanie, la résistance du camp pro-démocratie face aux militaires. D'anciens députés issus du parti de la présidente Aung San Suu Kyi affirment avoir récolté des dizaines de milliers de preuves de violations des droits de l'homme commises par la junte depuis le coup d'État du 1er février. Exécutions, tortures et détentions illégales. L'objectif est maintenant de pouvoir les remettre à des enquêteurs de l'ONU. La Libye suscite un regain d'intérêt de la part de ses voisins européens. Plusieurs ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères ainsi que le chef du Conseil européen s'y sont rendus la semaine dernière. Et puis hier, ce sont les premiers ministres italiens et grecs qui ont effectué une visite officielle à Tripoli. Preuve d'une embellie politique, ces échanges sont aussi l'occasion de consolider les relations bilatérales. Adélaïde Patrignani.
Ces visites annoncent une nouvelle ère dans les relations avec l'exécutif libyen. Le premier ministre grec Mitsotakis a ainsi annoncé la réouverture de l'ambassade de Grèce à Tripoli. Décision similaire à celle de son homologue maltais il y a 10 jours. Il a aussi rouvert l'épineux dossier de la délimitation maritime signé en 2019 entre la Turquie et la Libye, un accord contesté par la Grèce qui touche aux hydrocarbures et à la coopération militaire. Mario Draghi a lui aussi parlé d'économie avec le premier ministre libyen. L'ancienne colonie demeure un partenaire commercial de premier plan pour l'Italie, surtout dans le domaine pétrolier. L'autre dossier majeur qui les unit concerne les migrations. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants passent par la Libye pour rejoindre les côtes italiennes, les traversées donnant souvent lieu à des drames. Mario Draghi a hier exprimé sa satisfaction concernant les opérations de sauvetage menées en Méditerranée. Enfin, il a encouragé les autorités libyennes au strict respect du cessez-le-feu signé à l'automne, une étape qui a permis de ramener un peu de stabilité dans ce pays miné par une décennie de conflit et qui entame désormais une période de transition. Des élections présidentielles auront lieu fin décembre. Une commission de réconciliation nationale a également été mise sur pied lundi pour tenter de rétablir la paix sociale.
Adélaïde Patrignani. Le Liban et cette nouvelle charge du cardinal Rai contre les élites dirigeantes. Le blocage politique qui paralyse son pays depuis des mois est selon lui le signe qu'il existe un plan clair et défini visant à changer l'identité du Liban et à détruire ses institutions. Le patriarche Maronite insiste, la solution viendra du respect de la Constitution. Le Soudan poursuit sur la voie de la normalisation avec Israël. Un projet de loi est en préparation pour abroger le boycott de l'État hébreu en vigueur depuis 63 ans. Khartoum précise toutefois son attachement ferme à la solution à 2 États, israélien et palestinien. Et puis avant de passer à notre dossier, un point sur la pandémie de Covid qui semble hors de contrôle au Brésil où plus de 4000 décès ont été recensés pour la seule journée d'hier. Et puis aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé que tous les Américains seraient éligibles au vaccin, cela dès le 19 avril. Signalons enfin la mort hier du théologien Hans Küng à l'âge de 93 ans. Érudit, expert au Concile Vatican II, ses champs de recherche portaient entre autres sur l'écuménisme et le dialogue entre religions. Ses prises de position controversées sur l'infaillibilité pontificale lui avaient valu le retrait de sa licence ecclésiastique d'enseignement ecclésiastique en 1979. Malgré leurs nombreuses divergences, il avait été reçu en 2005 par Benoît XVI. L'épineux dossier du nucléaire iranien est donc à nouveau au centre de négociations à Vienne depuis hier. L'objectif est de sauver l'accord international signé en 2015 qui menace de voler en éclats depuis que Donald Trump l'a quitté en 2018 tout en rétablissant des sanctions contre l'Iran. Et en réponse, Téhéran s'est progressivement affranchi de ses engagements. Mais depuis son arrivée au pouvoir, le nouveau président américain Joe Biden s'est montré ouvert à des négociations. L'Union européenne et les États signataires essaient donc de préparer la réintégration des États-Unis. Washington, toutefois, ne discute pas à la même table que Téhéran et ce sont donc les Européens qui servent d'intermédiaire entre les deux parties. La République islamique a déjà montré sa fermeté en exigeant la levée de toutes les sanctions, une condition pour freiner ses travaux d'enrichissement d'uranium. C'est donc un marathon diplomatique qui est en cours sur le sol autrichien et aussi un premier pas encourageant selon Thierry Coville. Il est chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran.
On n'en est qu'au début du processus, mais je pense que le fait qu'on ait pour la première fois une réunion de tous les signataires de l'accord sur le nucléaire iranien, je veux dire ceux qui sont restés, plus les États-Unis qui l'ont quitté en mai 2018, c'est la première réunion ensemble. Et on sait que l'objectif, c'est quand même le retour des États-Unis dans l'accord. Donc on va dire que c'est un premier pas positif. Il faut voir ce que ça va donner. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a un processus qui se met en place avec, je dis, l'objectif qui semble plus réaliste actuellement, c'est l'idée de travailler à un retour coordonné des États-Unis dans l'accord.
L'absence d'un dialogue direct est le signe quand même d'une défiance qui persiste. Est-ce que ça, c'est pas un mauvais signe pour la validité de cet accord?
Non, je pense que c'est assez logique. Si vous voulez, compte tenu du niveau de défiance vis-à-vis des États-Unis depuis la sortie des États-Unis de l'accord en mai 2018 en Iran, c'est logique. Aux États-Unis, pour des questions de politique intérieure, l'idée, c'est de montrer qu'on n'est pas faible vis-à-vis de l'Iran. Donc, je pense que c'est une reprise logique des négociations à l'intérieur du groupe qui a signé l'accord de 2015. Donc, sans doute, les négociations directes entre l'Iran et les États-Unis viendront plus tard.
Alors, qu'est-ce qui pourrait constituer un frein dans les négociations qui ont lieu actuellement à Vienne ?
Le principal frein, c'est pas simplement aujourd'hui, c'est depuis l'élection de Biden. Je pense que c'est des questions de politique intérieure, notamment aux États-Unis. On sait qu'il y a une partie du Congrès, que ce soit des démocrates ou des républicains d'ailleurs, qui sont vraiment contre le retour aux États-Unis dans l'accord. Et Biden, qui a besoin du Congrès notamment pour faire approuver son plan de relance de l'économie, et en gros, il marche sur des œufs. Du côté iranien, c'est plus clair, mais également pour des raisons de politique intérieure, le pouvoir iranien, notamment, on va dire, les plus radicaux, ne peuvent pas avoir l'air de donner des gages, enfin, voulaient avoir l'air faible par rapport aux États-Unis. Donc, on va dire, c'est des questions de politique intérieure. Pour voir si l'objectif de retour des États-Unis dans l'accord sera dépassé ses contraintes de politique intérieure. Les Européens et les Chinois et les Russes sont pour un retour des États-Unis dans l'accord. Donc on va dire qu'il y a une communauté d'intérêts.
Quelle est la stratégie géopolitique des États-Unis un peu plus large en voulant revenir dans l'accord? Est-ce qu'ils essaient par exemple de se positionner par rapport à d'autres pays en renforçant cette alliance?
Biden avait dit pendant sa campagne présidentielle qu'il voulait revenir dans l'accord. Donc ce qui est en train de se passer, c'est la suite logique de sa promesse électorale, parce qu'il considère que la politique de pression maximum de Donald Trump n'a pas marché. Donc c'est assez logique. Je pense qu'il y a peut-être des éléments effectivement géopolitiques qui ont poussé les États-Unis à reprendre ces négociations. Le fait, par exemple, qu'ils veulent quand même se désengager du Moyen-Orient, ils veulent partir d'Afghanistan. Ils se disent que faire ça alors que les tensions sont élevées avec l'Iran, je pense que c'est quand même assez compliqué. Il y a peut-être l'annonce de ce traité de 25 ans entre l'Iran et la Chine qui montre aux États-Unis qu'ils ont quand même intérêt à ne pas laisser la Chine occuper toute la place au Moyen-Orient.
Comment s'assurer que les décisions prises soient bel et bien mises en place? Quelles garanties est-ce qu'il pourrait y avoir?
En mai 2018, quand les États-Unis sortent de l'accord, l'Iran respectait à la lettre. Il y avait, je crois, 11 rapports de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui montraient que l'Iran respectait l'accord. Et au bout d'un an, l'Iran a dit aux Européens notamment « Nous, on veut rester dans l'accord ». Essayer de contrer les sanctions américaines. Les Iraniens, au bout d'un an, donc en mi-2019, se rendant compte que les Européens ne font rien pour les sanctions américaines, ils ont dit on va quand même réagir. Donc ils ont commencé à sortir de l'accord. Et je pense que le problème, c'est plutôt du côté américain. Les Iraniens sont très très méfiants. Ils veulent absolument que si les États-Unis reviennent dans l'accord, ils aient des garanties qu'on ne va pas leur rejouer le coup de Donald Trump, c'est-à-dire sortir de l'accord dans deux ans. Donc effectivement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des garanties très sérieuses données par les États-Unis, que les sanctions qu'ils annulent et le fait qu'ils reviennent dans l'accord, c'est pour de bon. Alors le problème, effectivement, c'est que les États-Unis pourront annuler les sanctions simplement prises par le président. Du côté du Congrès, ça s'annonce compliqué. Donc les Iraniens vont vraiment attendre des garanties comme quoi les sanctions seront bien effectivement levées par les États-Unis.
Voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani, Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute fidèle. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau journal d'information vaticane et internationale. Excellente journée à toutes et à tous.